Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Psaume au chapitre 63 et au verset 1. Psaume 63, verset 1. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Aussi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Une deuxième lecture dans Psaume, chapitre 42 et au verset 2. Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Amen. Et une troisième et dernière lecture après quoi nous rentrerons dans le partage, c'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 5 et verset 8. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 8. Trois livres plus loin. Chapitre 5 et verset 8. « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes ? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi ? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Amen. Amen. Quelle lecture ! Passionné, n'est-ce pas ? Quelle lecture ! On voit que ces trois lectures qu'on vient de faire, de trois personnes différentes, ont tous un point commun. Elles ont toutes un point commun, c'est que ces personnes expriment leur soif de quelqu'un. Leur soif de Dieu pour les psaumes, leur soif de ce bien-aimé dans le Cantique des Cantiques. Et on sait que le livre des Cantiques nous parle de l'amour de Jésus envers son épouse et de l'épouse envers Jésus. C'est toute une histoire comme ça qui nous renseigne sur l'amour qui anime Jésus envers sa fiancée, l'Église, et l'amour qui doit animer l'Église envers son Sauveur, le Seigneur Jésus. Et la réflexion que j'aimerais apporter ce soir, ce que j'ai eu sur le cœur vraiment en cherchant la face de Dieu, c'est, ça pourrait être nommé comme ça en titre, « Pourquoi avoir soif du baptême dans le Saint-Esprit ?» On dit d'avoir soif, on dit d'aspirer au baptême dans le Saint-Esprit, et ce soir, j'aimerais simplement nous rappeler avec vous, eh bien, pourquoi devons-nous avoir soif du baptême dans le Saint-Esprit ? La première chose que j'ai notée, c'est que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous aspirions au baptême dans le Saint-Esprit. Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit. Deuxièmement, ce que je note encore, c'est que nous devons aspirer, avoir soif du baptême dans le Saint-Esprit pour qu'on puisse recevoir l'abondance de Dieu. Troisièmement, pour connaître Dieu au lieu de savoir des choses sur Dieu. Et quatrièmement, pour être capable de faire la volonté de Dieu. Pourquoi je dois aspirer au baptême dans le Saint-Esprit? Parce que c'est par le baptême dans le Saint-Esprit que je serai rendu capable d'être l'enfant de Dieu, l'instrument de Dieu entre ses mains qu'il veut que je sois. Alors premièrement, comme je l'ai dit, parce que c'est la volonté de Dieu. Voulez-vous faire la volonté de Dieu? Je vous pose une question. Est-ce que ce soir, il y a des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles qui veulent faire la volonté de Dieu? Oui, trois amen. Est-ce qu'il y en a un peu plus? Est-ce que tous les enfants de Dieu devraient vouloir faire la volonté de Dieu? Oui. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on s'est engagé le jour de notre baptême? Je m'engage à suivre le Seigneur Jésus, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. C'est pas ça? Bon. Alors, peut-être quelqu'un dira, mais moi, je n'ai jamais voulu faire la volonté de Dieu. J'en suis pas encore là. Peut-être vous êtes tout nouveau, vous dites, mais je ne connais pas même la volonté de Dieu. La première chose qu'on doit connaître de la volonté de Dieu, bien sûr, c'est qu'il veut sauver le monde. Et pour ces personnes-là, je me dois de présenter un peu comme l'a fait notre frère dimanche matin, notre frère Bordeneuve. J'ai vraiment apprécié, il a pris du temps pour ceux qui découvrent l'Évangile, pour ceux qui ne sont pas encore en marche avec le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que la volonté de Dieu, c'est de nous sauver. Sauver de quoi? Depuis que le premier homme de la terre, Adam, a laissé rentrer le péché dans son cœur, le péché a commencé à régner sur toute la terre. Le péché, la mort est venue sur la terre et a touché tous les êtres humains. Toute l'humanité est touchée par le péché et par la mort. On meurt tous. On est tous loin de Dieu. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son fils Jésus faire une brèche dans ce règne-là, une brèche dans cette voie de perdition-là. Jésus a ouvert un nouveau chemin, a donné une nouvelle solution pour que nous puissions être sauvés. Il a donné un nouvel itinéraire que celui qui conduisait vers l'enfer. Il a donné une nouvelle route, celle qui mène vers le paradis. Cette route qui nous est décrite dans la parole de Dieu, cette route qui est la volonté de Dieu. Et lorsque nous marchons sur le chemin de la volonté de Dieu, nous allons au paradis. Et quiconque croit que Jésus-Christ est venu et qu'il a par sa vie, par sa mort et par sa résurrection ouvert ce nouveau chemin, en expiant nos péchés sur le bois de la croix, quiconque croit au nom de Jésus qui veut dire sauveur, quiconque croit à l'œuvre de Jésus, alors celui qui dit « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés », celui qui veut faire la volonté de Dieu, alors celui-là, il est sauvé. Comme on l'a entendu dans les chants, il suffit, si on se reconnaît pécheur, de dire « Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon parce que ça t'en a coûté la vie. Tu es mort à cause de moi sur le bois de la croix. Ce n'est pas les Romains ou les Juifs qui ont crucifié Jésus, c'est mon péché. C'est moi le fautif, personnellement, chacun d'entre nous. Seigneur, je te demande personnellement pardon pour mes péchés. » Alors celui-là, à l'instant même, comme il a été rappelé, il obtient le pardon de son péché. Et du royaume de Satan, du règne du péché et de la mort, il passe au royaume de Dieu. Un royaume où la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la joie, l'amour de Dieu abondent et coulent jusque dans l'éternité. On passe d'un royaume qui nous mène vers l'enfer au royaume de Dieu qui nous mène vers le paradis, vers le ciel, vers la félicité éternelle. Faisons-nous partie de ce royaume? Ou sommes-nous encore sous la puissance du diable? Si on est un enfant de Dieu, si on a déjà connu ces choses, fait le choix, eh bien le Seigneur Jésus veut nous remplir du Saint-Esprit. Comment je sais que c'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit? Mais parce que ça fait partie des promesses de Dieu. Je vous fais quelques lectures. Dans Actes chapitre 2, verset 15, « Ces gens ne sont pas ivres, répondait Pierre. » Juste après la Pentecôte, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Dieu l'a dit, Dieu l'a promis et Dieu l'a accompli et il continue de l'accomplir encore aujourd'hui. Un autre texte, acte 2, 33, un peu plus loin. « Élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » C'est toujours à la Pentecôte. Acte 2, 37 à 39. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Deuxièmement, premièrement, Dieu l'a promis, mais comment je sais que c'est sa volonté? Parce que Dieu veut répandre son esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, des armées, qu'il bâtira son temple, sa maison. Le contexte, c'est la construction d'une maison pour l'Éternel, dont Jésus est la pierre angulaire. Et il dit que l'Église, son Église, son peuple, tous ceux qui sont sauvés ne peuvent l'être. L'Église ne peut être bâtie que par la puissance du Saint-Esprit, pas par nos forces, pas par notre gloire, notre influence, pas par notre raisonnement, mais bien par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit, parce qu'il veut bâtir son Église. Il l'a dit, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église de Dieu. On participe à sa construction. On est l'Église du Seigneur. On est son temple. Mais c'est lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous ne sommes simplement que des instruments. Est-ce que c'est le marteau qui bâtit un temple ou est-ce que c'est celui qui frappe? Est-ce que c'est l'instrument ou est-ce que c'est celui qui sert de l'instrument qui bâtit? Moi, je ne crois pas que c'est le marteau. Je ne crois pas que c'est, je ne sais pas moi, le tournevis, tout ce qu'on veut, la scie pour scier du bois, etc. Je ne crois pas que c'est l'instrument qui bâtit. Je crois que c'est celui qui utilise l'instrument. Et nous, nous devons être que des instruments remplis du Saint-Esprit pour bâtir l'Église de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes tous participants, bien sûr, en tant qu'instruments à la construction de cet édifice. Et Dieu veut que tous nous soyons baptisés, remplis du Saint-Esprit. Pourquoi je dis baptisé dans le Saint-Esprit et pas du Saint-Esprit? Parce que baptiser, ça veut dire plonger. Et j'ai jamais entendu quelqu'un dire plonger du Saint-Esprit. On dit plonger dans le Saint-Esprit. Dieu veut nous utiliser comme un instrument, simplement. Il ne veut pas que son temple, dont nous sommes les pierres vivantes, soit construit par nos efforts, nos méthodes et nos raisonnements, mais par l'action de son Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu veut que nous ayons soif d'être remplis du Saint-Esprit. Avez-vous soif d'être baptisé du Saint-Esprit? Avez-vous soif d'être renouvelé du Saint-Esprit? Vous le voulez? Moi, j'en ai envie. J'en ai envie. J'étais heureux dimanche matin de sentir la présence de Dieu. J'ai pas peur d'utiliser le mot. De ressentir la présence de Dieu. C'est pourquoi je pleurais. Je pleurais pas parce que j'étais triste. J'étais ému devant mon Seigneur. Qu'il en soit ainsi toute ma vie. Deuxièmement, pourquoi alors recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Pourquoi en avoir soif? Pour que l'on puisse recevoir l'abondance de Dieu. Dieu, est-ce qu'il est riche? Oui, ou est-ce qu'il est pauvre? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne parle pas de choses matérielles. On sait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça doit nous rassurer. On sait qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Mais même spirituellement, est-ce que Dieu est riche spirituellement? Moi, je le crois. Je le crois. Il est dit dans 2 Corinthiens, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Amen. Le Seigneur s'est fait pauvre sur la terre. Aujourd'hui, il est riche à nouveau. Mais il s'est fait pauvre, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Pourquoi? Pour pouvoir nous enrichir. Le but du Seigneur, c'est de nous faire riches, de nous rendre riches déjà sur la terre. Riches des choses spirituelles, riches des charismes spirituels, riches de son esprit, riches de sa présence. Il nous a sauvés, dit Tite, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Saint-Esprit est répandu en abondance. Il ne faut pas qu'on reçoive juste une portion de l'Esprit. Quelqu'un me posait une question dernièrement. Est-ce que lorsque je suis sauvé, je reçois le Saint-Esprit dans mon cœur? La réponse est oui. On a tous, nous qui sommes sauvés, le Saint-Esprit dans notre cœur quand même, en nous. Il vient habiter en nous. Il ne faut pas faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais on reçoit comme une portion, une partie. Et le Seigneur voudrait nous remplir en abondance. Que ça déborde, que ça jaillisse en nous. C'est cela que le Seigneur il veut faire avec nous. Il veut nous donner son esprit avec abondance. Et dans Galates 5, 22, il est parlé du fruit de l'esprit. Qui connaît les 9 qui sont cités là? Allez. Rappelez-les-moi, je sais que vous êtes très spirituel, vous connaissez. Pardon? L'amour, la paix, la joie, la science, la patience, parce que j'allais dire la science, moi je vais vérifier, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Est-ce que c'est tout? Vous croyez que ça s'arrête là, le fruit de l'esprit? Le résultat de l'esprit en nous, ça s'arrête là? Ou est-ce que ça continue? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, vient habiter en nous, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, vous en avez parlé il y a 2 semaines, qu'est-ce qui vient? Monsieur Norbert de Dieu, le parler en langue. Est-ce que ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit? Je ne crois pas que ça ne vienne pas de notre cerveau, hein. Que ça vienne de notre cerveau, je ne crois pas. Je crois que c'est le fruit du Saint-Esprit. Le parler en langue, la prophétie, la parole de sagesse, de connaissance, les miracles, les visions, les songes qui ont été promis avec le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a fait cette promesse qu'on a lue tout à l'heure, Joël en tout cas, qui l'a rapporté de la bouche de Dieu, il disait, voilà, vos vieillards auront des songes, vos jeunes hommes auront des visions. Le courage, ce n'est pas un esprit de timidité. La puissance de Dieu vous sera sur vous. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. La conviction de péché, c'est un fruit de l'Esprit. La fertilité. Marie a été couverte du Saint-Esprit et elle a enfanté. Et je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, on enfante des âmes à Dieu. Vous l'avez jamais remarqué? Quand on est plein du Saint-Esprit, on dit les mêmes mots, mais ils ont une portée différente. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit. Quoi d'autre alors? Conviction de péché, la fertilité, la protection. Dieu nous garde. La révélation. L'inspiration, l'unité, et la liste elle se rallonge, hein. Le Saint-Esprit il a beaucoup d'actions dans notre vie, et nous on se contente souvent au neuf là, mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous communiquer par son Esprit Saint. Et toutes ces choses, Dieu veut nous les donner non pas avec parcimonie, non pas au goutte à goutte, comme on arroserait une plante, mais avec abondance, c'est des fleuves d'eau vive qui doivent venir. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, un peu plus loin, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la science la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point voisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez le mot connaissance, on en reviendra plus tard. C'est dans 2 Pierre qu'il est dit ce texte. On se souvient de cette femme samaritaine. Elle venait puiser de l'eau chaque jour. Elle venait chercher son eau et puis elle a fait une rencontre merveilleuse avec le Seigneur Jésus. Et il lui a dit, donne-moi à boire. Ah bon, mais toi qui es juif, tu me demandes à boire? Ne sais-tu pas qu'il y a, etc. Et puis Jésus lui dit, si tu me connaissais, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Ah bon? Mais tu n'as ni puits, tu n'as ni seau, tu n'as rien pour puiser, qu'est-ce que tu ferais? Et où aurais-tu cette eau vive? Et Jésus lui dit, si tu crois en moi. Hein? Comment il lui dit? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, hein? On voit l'intérêt tout de suite, plus besoin de puiser. Donne-moi cette eau. Mais lui parlait d'une réalité spirituelle. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici, dans Jean 4. Et Jésus va lui parler un peu de sa vie. Parce qu'il lui montre que ce n'est pas une réalité physique, c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose qui se passe dans le cœur, à l'intérieur de nous. Et Dieu voit dans nos cœurs. Il savait qu'elle avait eu plusieurs maris et que celui qu'elle avait en ce moment, ce n'était même pas le sien. Elle commettait adultère. Il dévoile sa vie. Oh, touchée, elle croit en Jésus. Jésus y répondit cela. Et j'aimerais vous poser une question. Voulez-vous un verre d'eau ou voulez-vous une source? C'est quoi qui est mieux? La fontaine, la source. Hein? Oh, nous, Simon nous disait, dans votre jardin, vous voulez un verre d'eau ou vous voulez une source d'eau fraîche? Moi, je veux la source. Eh bien, ne voulons pas, ne nous contentons pas d'un peu, un peu de Saint-Esprit, un peu de Dieu de temps en temps. Un peu de sa présence de temps en temps, même à nous qui avons vécu pour une fois ou pour plusieurs fois le baptême dans le Saint-Esprit. Cherchons à vivre constamment devant la source du Seigneur, qu'il puisse y avoir quelque chose qui jaillit et qui ne tarit pas. Parce que quand même le Seigneur nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et la source peut tarir pendant un temps. Et il nous faudra à nouveau nous repentir, il nous faudra à nouveau chercher la face de Dieu pour que l'eau rejaillisse à nouveau. On veut la source, on veut l'abondance. Et avant d'aller à la suite, juste après, Jésus parle à cette femme. Non, les gens à qui elle a parlé, les habitants de la ville qu'elle habitait lui parlent et lui disent, il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Cette femme avait commencé à leur parler et ils ont cru parce qu'elle leur a parlé au début. Mais au bout d'un moment, alors qu'ils s'approchent de Jésus, ils entendent Jésus, ils connaissent Jésus. Et alors, ils ne savent plus parce qu'on leur a dit quelque chose, mais ils savent vraiment parce qu'ils ont connu Jésus. Et c'est là mon troisième point. Pourquoi être baptisé dans le Saint-Esprit? Pourquoi chercher le baptême dans le Saint-Esprit? Pour connaître au lieu de simplement savoir qui est Dieu. Savoir, c'est différent de connaître. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, je vais vous donner un exemple. Quand je sais quelque chose, je ne connais pas forcément la chose moi-même. Je ne l'ai pas forcément expérimenté. Mais quand je connais quelque chose, je l'ai expérimenté, je le sais à coup sûr. Un exemple. Je peux vous parler d'un champ de bataille, d'une guerre qu'il y a eu en 14, de la manière dont la stratégie a été passée, etc. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des livres entiers sur des guerres, sur des batailles, sur des batailles qui ont eu lieu, qui ont été écrites et qui racontent comment les choses ont été décidées, des petites anecdotes, etc. Mais il y a une différence entre entendre parler du champ de bataille et être en plein milieu, voir les balles nous passer à côté, entendre siffler, voir les explosions, voir l'odeur de la poudre, etc. Il y a une différence entre ce qu'on me raconte et ce que j'ai vécu par moi-même, ce que j'ai expérimenté. Si je vous dis brûler, pour prendre mon exemple, je peux vous dire ce que ça fait que d'être brûlé. Je peux vous dire, voilà, ça fait très mal, j'ai crié, etc. Mais il y a une différence entre vous raconter ce que c'est que d'être brûlé et puis être brûlé soi-même. Quand on l'a expérimenté, on sait la différence. Se souvenir de l'odeur qui sort de la brûlure, des cris des autres, non seulement le sien, mais des autres aussi. Souvenir de tout ce qui s'est passé, la confusion, les flammes qui viennent, les flammes qui partent, etc., les vêtements qui brûlent. La douleur, puis l'adrénaline, le cœur qui bat, tout ça. Je peux vous en parler, mais tant que vous ne l'avez pas vécu vous-même, vous pouvez dire « je sais, mais je ne connais pas. Je ne connais pas ce que c'est. Je ne peux pas dire « je l'ai vécu ». Et le Saint-Esprit nous fait connaître Dieu. Il va plus loin que nous enseigner. Il nous enseigne pour qu'on ait la foi afin d'expérimenter les choses de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit nous parle de ce qu'il a entendu, nous rapporte les paroles de Jésus? Mais pour que nous les mettions en pratique. Pourquoi nous rappelle-t-il les promesses, nous révèle-t-il la portée des promesses de Dieu et de la parole de Dieu? Pour qu'on les expérimente et qu'on se les approprie. Sinon le Saint-Esprit, ça ne servira à rien qu'il soit là, la parole de Dieu, elle suffit. Mais il nous est dit que la parole de Dieu, elle est vivifiée par le Saint-Esprit. Elle est une épée dans la main du Saint-Esprit. C'est lui qui lui donne du mouvement à la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui la vivifie. Quelqu'un dira qu'il l'énergise. J'aime pas parler des énergies. Il y en a, ils vont partir dans les chakras, tout ça. Moi, j'y crois pas. Je crois que c'est une portée spirituelle. C'est lui qui donne de la puissance à la parole. Il est dit, la lettre tue. Mais quand il y a l'esprit, elle vivifie. L'esprit vivifie. Il donne la vie. La parole est esprit et vie. Si je la lis comme un roman, elle va rien faire. Je vais enfler mon cerveau et mes chevilles. Mais si je la lis avec un cœur sincère, un cœur qui cherche Dieu véritablement, alors elle va avoir une portée différente dans mon cœur. Elle va me pousser à vivre ce que la Bible dit, à obéir à ce que dit la parole de Dieu. Elle va faire que ce qui est sur papier en deux dimensions devienne quelque chose de quatre dimensions. Non seulement en profondeur, en largeur, en hauteur, mais même dans le temps. Hein? C'était peut-être pas important. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, pas qu'ils sachent qui tu es. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment vivre la vie éternelle déjà aujourd'hui? Comment vivre cette qualité de vie sur la terre, être au bénéfice des promesses de Dieu, voir la puissance et la gloire de Dieu? Simplement, en étant baptisé dans le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui m'ouvre les choses, qui m'ouvre les yeux, sur les choses spirituelles. Comment Paul a pu voir que cet homme avait la foi pour être guéri lorsqu'il prêchait dans Actes des Apôtres? Comment est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était plein du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Et quand il prêche, il voit quelque chose que le commun des mortels ne voit pas. Il voit la foi. Il a un don de discernement, il a quelque chose, il a un charisme qui naît dans son cœur. Il voit qu'une personne a la foi pour être guérie. Vous l'auriez vu, vous, sans l'action du Saint-Esprit, non? Comment est-ce que Jésus a exercé son ministère si ce n'est par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit? La vie éternelle, ce n'est pas simplement une vie qui ne finit pas. Comme je l'ai dit, c'est une qualité de vie. Et elle ne se vit, elle ne se découvre, elle ne s'accomplit dans notre vie à nous que quand je connais Dieu. Pardon. Petit geste, c'est pour voir si vous êtes réveillé. Celui qui nous les révèle, le Père et le Fils. Celui qui nous fait rencontrer le Seigneur Jésus, qui nous convainc de péché, qui nous convainc de justice, de jugement, qui nous convainc que Jésus est bien le Fils de Dieu, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Autrefois, quand Jésus était sur la terre, c'était lui qui parlait du Père et qui parlait de l'Esprit Saint. Il rapportait, il révélait le Père et il annonçait la venue de l'Esprit Saint. Mais maintenant que Jésus est parti, le Saint-Esprit est là. C'est un temps où c'est le ministère du Saint-Esprit qui est mis à l'honneur. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler la personne de Jésus, pour nous faire connaître Dieu le Père, pour nous faire connaître Jésus. Et quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je suis côte à côte avec le Père, avec Jésus. C'est pour ça que Jésus pouvait dire « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Sinon, Jésus, sans l'Esprit, il n'aurait pas pu le dire, puisqu'il est à la droite du Père, assis. Il ne peut pas être à la fois dans le ciel et à la fois sur la terre, à moins que son Esprit ne nous manifeste sa présence au milieu de nous. Dans Marc chapitre 16, versets 19 à 20, il est dit, je le prends, Marc 16, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Il est dans le ciel à la droite de Dieu. « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc Jésus, il est dans le ciel, mais à la fois il confirme et il travaille avec eux sur la terre. Comment? Si ce n'est par le Saint-Esprit. Quelqu'un dira que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une théophanie. Qu'est-ce que c'est qu'une théophanie? Une théophanie, c'est une manifestation visible et sensible de la présence de Dieu et de la personne de Dieu. Quand le buisson ardent brûlait et qu'il y a une parole qui est sortie du buisson ardent, on appelle ça une théophanie. C'est Dieu qui est présent sur la terre. On le voit par une vision. Moïse avait le privilège de le voir face à face. C'est le seul. Les autres, il est dit, ils me verront. Dieu dit à Moïse, les autres me verront par des visions. Mais lui, il avait le privilège de rencontrer Dieu face à face. Face à face. Et quand une théophanie, c'est quand Dieu vient au milieu de nous, vient nous rencontrer, vient manifester sa puissance, sa gloire au milieu de nous, vient nous transmettre une parole. Et qui a été baptisé dans le Saint-Esprit? Qui a fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit? Vous l'avez fait. Est-ce que ce n'était pas le ciel sur la terre? Franchement, s'il y a bien un jour où ça l'a été, c'est ce jour-là. Le jour où pour la première fois j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais est-ce que à chaque fois qu'on est renouvelé dans le Saint-Esprit, c'est pas aussi le ciel sur la terre? Amen. Et quand on est bouillant, on vient d'être renouvelé, d'être fortifié dans la présence de Dieu, on sort, mais le Seigneur il est à côté de nous. C'est comme un ami. Je me souviens quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je marchais dans la rue pour aller au collège, moi qui étais timide, qui me faisait frapper, là j'étais content. J'avais comme un coach à côté de moi. Vous savez? Vraiment c'est ça. J'avais quelqu'un de présent à côté de moi. Et le Seigneur, il manifeste sa présence à côté de nous. Il nous fait ce privilège par le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va plus loin que simplement avoir l'Esprit en soi. C'est Dieu qui vient nous visiter personnellement. Le Saint-Esprit ouvrant une fenêtre sur le ciel. Et il y a un contact direct entre Dieu et nous. Que ça puisse vous donner envie, hein, vous qui ne le connaissez pas encore. Le ciel sur la terre. Pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il ne faut pas chercher le baptême dans le Saint-Esprit seulement. Il ne faut pas chercher les langues. Je crois que chercher le baptême dans le Saint-Esprit, vu qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas quoi chercher. Chercher le parler en langue, ça revient à chercher l'effet plutôt que le donateur, celui qui en est la cause. Je crois que pour être baptisé dans le Saint-Esprit, comment faut faire? Il faut chercher Dieu tout simplement. Cherche Dieu. Cherche sa face. Cherche sa présence. Supplie-le de venir te visiter. Supplie-le de venir en toi, de le venir avec toi. Supplie-le de t'accompagner. Supplie-le de t'aider. Supplie-le de venir. Et il va le faire. Parce que Dieu ne rejette pas. Il n'y en a pas un qui est plus mauvais que l'autre. D'ailleurs, Dieu ne nous regarde pas directement. Il nous voit au travers de Jésus, son Fils. Et comme Jésus, lui, il est parfait, alors on a tous ce bénéfice. Sur tous, Dieu veut répandre son esprit. Sur toute chair qui confesse le nom de Jésus. C'est pourquoi certains n'ont même pas cherché le baptême dans le Saint-Esprit. Et pourtant, ils ont été remplis du Saint-Esprit là où ils étaient. Vous avez jamais entendu ça? Moi, mon épouse, elle me dit, j'étais là, je cherchais rien du tout. Je ne cherchais pas le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis d'un coup, j'ai commencé à sentir quelque chose dans mon cœur, à bafouiller quelque chose, et puis je ne savais même pas ce que c'était. Alors j'ai demandé à ma sœur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il m'arrive ça? Elle dit, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, laisse venir, fais confiance, le Seigneur, il va, tout ça. Et puis ça vient, et puis il y a des moments merveilleux. Parce qu'ils cherchaient le Seigneur, c'est des gens qui cherchaient Dieu. Ils cherchaient pas le baptême dans le Saint-Esprit, ils ne cherchaient pas le parler en langue, ils cherchaient tout simplement Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens, même sans chercher, ils l'ont trouvé. Je ne veux pas culpabiliser ceux qui ne l'ont pas encore reçu. C'est important de le dire. Moi, j'ai attendu longtemps. À un moment, une première fois, pendant 3 mois, je suis allé à toutes les réunions, tous les trucs. Je faisais avec papa 50 km pour aller à l'église. Je revenais et j'étais très jeune, j'avais l'école le lendemain, etc. Je l'ai fait. Mais de moi-même, j'avais 9 ans. Je voulais être baptisé dans le Saint-Esprit et je cherchais le baptême dans le Saint-Esprit. Et je ne l'ai pas eu. Il a fallu attendre. Et puis un jour, avec papa, on a cherché la face de Dieu. Et c'est venu. C'est venu tout simplement. Avez-vous soif de Dieu pour connaître et non pas savoir des choses sur Dieu? Souvent, l'image de l'huile répandue sur les croyants, sur la tête d'Aaron, l'huile qui représente le Saint-Esprit, nous fait oublier que le Saint-Esprit, ce n'est pas un accessoire. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière de la Trinité. On lui doit le respect. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui ne peut se poser que sur ce qui est saint. Parce que Dieu ne se souille pas. Dieu ne mélange pas avec la souillure. Et on a cette image, de Jésus qui reçoit la colombe sur lui. Vous vous souvenez? Lorsqu'il sort de l'eau, il est baptisé, il sort de l'eau, et d'un coup il y a une colombe qui vient sur lui. Et le témoignage de Dieu le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et la colombe qui vient sur lui. Vous ne vous souvenez pas d'une autre colombe dans la parole de Dieu? Noé jette une colombe. Elle va sur toute la surface des eaux, elle cherche où se poser, puis elle ne trouve rien. Alors elle revient sur le bateau. Et la mer, dans cette image, représente le péché, la mort, puisque c'est mouvant, c'est tout ça. On s'enfonce. Et cette colombe, l'esprit, voudrait bien se poser sur quelque chose, mais il n'y a rien qui soit en dehors du péché. Il n'y a rien qui soit exempt de péché, de par sa nature même. L'homme est impur. Et la colombe ne se souille pas, le Saint-Esprit ne se souille pas. Et le premier sur qui il a pu trouver quelqu'un de vraiment saint, pur, c'est Jésus. Et cette image de Dieu, cette image que Dieu donne, le Saint-Esprit qui descend sur lui comme une colombe, sous la forme du colombe. Ça y est, la colombe a enfin trouvé quelqu'un sur qui descendre. Et non seulement descendre, mais aussi demeurer. Demeurer. Jésus est le saint qu'il nous fallait. Et aujourd'hui, par le sang de Jésus qui nous lave de tout péché et nous purifie de tout péché, non seulement nous, mais notre conscience aussi, nous sommes saints au travers du sang de Jésus. Et alors, depuis que Jésus est remonté au ciel et qu'il a envoyé l'Esprit Saint, l'Esprit est donné à tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui gardent la foi en Jésus-Christ et en l'efficacité de son sang. Le Saint-Esprit veut descendre sur vous. Le Saint-Esprit veut descendre à nouveau sur moi, sur chacun d'entre nous, parce qu'il veut nous faire connaître Dieu et son Fils. Quatrièmement, peut-être le plus important, pour être capable de faire la volonté de Dieu. Ésaïe 11:2 dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » N'avons-nous pas besoin de ces choses pour servir Dieu? De connaissance? N'avons-nous pas besoin de crainte de l'Éternel? N'avons-nous pas besoin de sagesse, d'intelligence pour conduire une assemblée, pour diriger notre foyer, élever nos enfants dans la crainte de l'Éternel? N'avons-nous pas besoin de conseils pour faire les bons choix et de force pour résister au diable? Le même esprit qui reposait sur Jésus repose sur nous. Aspirons à plus de lui, plus du Seigneur. Jésus est rempli du Saint-Esprit avant de commencer son ministère. Les apôtres sont remplis du Saint-Esprit avant d'aller par tout le monde. Paul est rempli du Saint-Esprit avant de prêcher sa première prédication. Philippe et Étienne sont déclarés des hommes pleins d'Esprit Saint avant de pouvoir servir même aux tables de l'Assemblée. C'est le même esprit qui survient sur les enfants de Dieu aujourd'hui. N'oublions pas que le Saint-Esprit est un esprit saint, rien de souillé ne peut venir. Par la croix, nous sommes participants à sa sainteté. C'est dans Hébreux 12, 10 que c'est dit. La colombe peut venir sur nous, je l'ai dit. Éphésiens 5, 18 dit « Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit ». C'est ça la bonne traduction. Continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Ça nous rappelle que nous qui avons fait déjà l'expérience de la Pentecôte une première fois, nous devons continuer, persévérer. Et lorsqu'on parle en langue, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le Seigneur, il nous dit qu'il y a les prophéties, que celui qui prophétise, eh bien, c'est mieux que celui qui parle en langue, parce qu'au moins, il édifie les autres. Alors, il faut non seulement parler en langue, il ne faut pas le mettre de côté, que personne n'empêche de parler en langue, mais il faut aussi aspirer à la prophétie. Il faut aussi aspirer aux paroles de connaissance. Il faut aspirer à toutes ces choses. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront reçu un ministère. Non ? Ceux qui auront cru. Tous ceux qui ont cru peuvent exercer ce qui est déclaré dans la parole de Dieu. Dans Marc 16, 15, par exemple. La promesse est pour tous. Paul disait, je voudrais que vous parliez tous en langue. Un peu plus loin, je voudrais que tous prophétisent. Mais tous ne parlent pas en langue. Tous ne prophétisent pas. Tous, tout simplement, ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit encore, mais ça va venir. Amen. Vous y croyez? Ça va venir. Persévérez. En conclusion, je vous rappelle simplement les quatre réflexions que j'ai eues avec vous ce soir. Premièrement, pourquoi être baptisé dans le Saint-Esprit? Tout simplement par obéissance à Dieu. Dieu le veut. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Deuxièmement, pour qu'on puisse recevoir l'abondance de Dieu. Troisièmement, pour connaître au lieu de simplement savoir des choses sur Dieu. Quatrièmement, pour être capable, apte à faire la volonté de Dieu. Et je conclus que ceux qui se disent remplis du Saint-Esprit se souviennent qu'il en faut peu pour effaroucher une colombe. J'en ai eu deux, et je peux vous dire qu'une colombe, ça a vite très peur. Et pour attrister le Saint-Esprit, il en faut peu. Veillons à ne pas attrister le Saint-Esprit. Que ceux qui l'ont été se souviennent avec envie de ce qu'ils ont vécu et se rappellent les promesses de Dieu. Et que ceux qui aspirent prennent courage et persévèrent. Mais que tous dans l'unité de l'Esprit, nous aspirons à un renouveau pour que nos réunions soient baptisées dans le Saint-Esprit. Plongées dans le Saint-Esprit. Que la réunion soit plongée de la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Que nos réunions soient visitées par la présence de Dieu. Pas simplement quelques personnes, mais toutes nos réunions, tous nos rassemblements. Soit plein, rempli, débordante de la présence de Dieu. Que jusque dans la rue, des gens soient attirés par quelque chose, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, l'onction divine, afin que la présence de Dieu et sa gloire soient manifestées au milieu de nous. Amen. Amen. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu n'as pas réservé ça à quelques-uns, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, tu as dit, sur toute chair, je répandrai de mon esprit. Et nous voulons nous redonner courage, chacun, pour aspirer aux choses les meilleures qui viennent de toi, au baptême dans le Saint-Esprit, à être plein de ta présence, à être constamment en communion avec toi. Sûrement, Seigneur, moi le premier, que j'ai des moments où tu n'es pas là, ton esprit ne peut pas demeurer, parce que je l'attriste, parce que je l'ignore tout simplement, je le laisse de côté. Et j'ai besoin, Seigneur, de ce message pour me rappeler que tu veux tout à nouveau nous remplir du Saint-Esprit. Tu veux tout à nouveau, Seigneur, nous baptiser dans le Saint-Esprit, nous plonger, Seigneur, dans le Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'envoyer ton esprit pour nous ouvrir une fenêtre sur le ciel, pour nous ouvrir une fenêtre sur les choses spirituelles, pour nous faire voir les choses que toi tu vois et que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons voir. Seigneur, donne-nous du discernement, rends-nous sensibles à ton esprit. Oui, Seigneur, fais-nous connaître, Seigneur, ta personne par le Saint-Esprit, que ton peuple, que toute l'Église de Sainte-Agne, que toute l'Église du monde entier, ton peuple, ton royaume, Seigneur, aspire au baptême dans le Saint-Esprit. Ne le laisse pas de côté. Aspire à être rempli de toi. Aspire à connaître à nouveau l'expérience que tu avais promise par la bouche de Joël, que tu avais promise toi-même, Jésus, lorsque tu étais sur la terre. Tu t'es levé, tu as dit quiconque a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et tu parlais du Saint-Esprit. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Jésus, que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Messie, loin l'envoyé. Nous croyons en toi, Père, que ta volonté a voulu nous sauver et que tu as tout accompli pour nous sauver en envoyant ton Fils. Et nous croyons au Saint-Esprit que tu as suscité sur nous pour nous rendre capables, pour nous équiper, pour nous mettre avec toi, en relation avec toi, Seigneur, une relation intime, au point que nous pourrons dire, je ne sais pas simplement des choses sur toi, mais je te connais, ô Dieu, parce que je vis constamment avec toi et dans ta présence. Pardon pour nos offenses, pardon pour nos péchés qui nous voilent ta face, qui nous cachent ta face. Oui, déchire encore en nous ce voile qui se crée, qui se recoue en nous. Et s'il te plaît, Seigneur Jésus, que notre chair à nouveau soit crucifiée, que nous arrivions, Seigneur, à mettre de côté toutes nos passions, ce qui nous séduit, Seigneur, constamment, les tentations, mais que nous choisissons, eh bien, ta présence, que nous choisissions ta parole, que nous choisissions ta volonté, simplement parce que tu l'as dit, parce que c'est ta volonté, Seigneur, et nous voulons te plaire, nous voulons avoir la foi dans ta parole pour t'être agréable et pour être au bénéfice de toutes tes promesses, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, de faire les efforts pour recevoir, eh bien, la vie éternelle et la vivre en ce moment. Je la reçois, bien sûr, par grâce, gratuitement, mais donne-moi de la conserver en te respectant, en ayant la crainte de ton nom. Merci, mon Dieu, parce que tu vas confirmer ta parole, je le crois, dans les jours qui suivront, dans les heures qui suivront, dans les minutes peut-être. Quelqu'un a-t-il soif ce soir du Seigneur? Je voudrais vous demander simplement de vous lever à votre place, comme un engagement à chercher la face de Dieu, comme un engagement à vouloir aller plus loin avec le Seigneur, comme un engagement à reconquérir, eh bien, ce terrain que vous avez abandonné, à avoir de nouveau soif de Dieu. Si quelqu'un avait ce désir d'être baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, qu'il se lève pour, comme signe devant Dieu, pour dire, moi, je veux tout à nouveau te dire, Seigneur, que j'ai soif de toi, j'aspire à toi, je veux être un instrument utile entre tes mains. Alléluia. Amen. Amen.